Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Alia Tovin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jordan Fuentes.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Nous achèverons notre série consacrée à l'économie de l'aviation. Cette semaine, nous avons dessiné les contours d'un marché en perpétuelle croissance. Le trafic aérien mondial devrait encore doubler d'ici à 2035, où la concurrence s'accroît entre les géants de l'aéronautique et entre les différentes compagnies. Aujourd'hui, c'est la privatisation controversée des aéroports français qui va nous occuper. La loi Pacte, qui prévoit la privatisation du groupe ADP, a été définitivement adoptée ce jeudi à l'Assemblée. Un projet contesté par une large partie de l'opposition. Près de 250 parlementaires, de gauche comme de droite, ont lancé un référendum d'initiative partagée pour tenter d'empêcher la cession des parts de l'État. Une première en France qui nous interroge sur la juste place du secteur privé vis-à-vis des infrastructures stratégiques. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour débattre de la privatisation des aéroports français, nous accueillons autour de la table Martine Orange, journaliste d'investigation chez Mediapart et autrice d'une enquête sur la privatisation des aéroports de Paris. Également parmi nous, Isabelle Jarjaille, journaliste pour Mediacité et autrice de l'ouvrage « Service public délégué au privé, à qui profite le deal ?» paru aux éditions Yves Michel. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade et la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Martine Orange et Isabelle Jarjaille, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter d'abord les arguments de l'opposition contre la privatisation du groupe ADP.
Votre gouvernement s'apprête contre vents et marées à commettre une grande faute en maintenant ce projet. D'abord une faute stratégique. ADP est une infrastructure clé, un monopole. Même les États-Unis s'interdisent de privatiser leurs aéroports. Exactement. Ensuite une faute économique. On sait désormais que privatiser un monopole naturel ou une activité économique non concurrentielle conduit à de piètres résultats. Le scandale de la privatisation des autoroutes est là pour nous le rappeler. C'est aussi une faute budgétaire. ADP est la première société aéroportuaire au monde. Avec une marge de 14%, elle est une source de revenus réguliers pour les comptes publics. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. C'est également une faute de méthode. On ne brade pas des biens communs, même pour financer un fonds d'innovation, d'autant que cet argument est fallacieux. Les 300 millions d'euros annuels que rapporteront vos privatisations sont nettement inférieurs aux 800 millions d'euros annuels que ces entreprises génèrent aujourd'hui. C'est enfin une faute démocratique. ADP n'est pas constitutionnellement privatisable. C'est une frontière vitale au cœur de notre capital économique et politique. Ce serait un abandon supplémentaire de notre souveraineté nationale.
Voilà le député de la gauche démocrate et républicaine, Stéphane Peu, qui s'exprimait à l'Assemblée le 20 février dernier. Alors on va revenir sur les différents arguments invoqués ici. Mais d'abord, Martine Orange, comment expliquer une telle mobilisation de l'opposition contre la privatisation d'ADP ?
Parce que là, on touche à des privatisations qui sont très différentes de celles qu'on a connues auparavant. Auparavant, on privatisait des biens qui étaient dans le secteur, qui étaient dans des activités concurrentielles. Là, nous touchons vraiment à des infrastructures qui sont des infrastructures physiques, géographiques, et qui mettent en jeu d'autres facteurs de contrôle, de géographie, de frontières, comme on a dit, mais qui sont des, en plus avec des caractères parfois de monopole physique, on y reviendra sur ADP, et donc on change de nature de privatisation.
Alors il y a près de 250 élus, comme je disais, qui demandent aujourd'hui ce référendum d'initiative partagée sur la privatisation de la gestion des aéroports de Paris. Est-ce que, selon vous, ce référendum a des chances d'aboutir ?
C'est très difficile à se prononcer parce que le processus de référendum d'initiative partagée est est très compliqué à mettre en œuvre. Très, très compliqué à mettre en œuvre.
Il n'a jamais été mis en œuvre.
Il faut déjà trouver une majorité, enfin au moins 185 parlementaires. Et c'est la première fois qu'on arrive sur un sujet à réunir droite et gauche sur ce même sujet. Après, il faut qu'il soit avalisé par le Conseil constitutionnel, avec une petite difficulté sur ce sujet-là, puisque normalement, la loi prévoit qu'on ne peut pas proposer un référendum sur une loi qui a été promulguée moins d'un an. Là, toute la discussion va être assez juridique pour savoir si le fait de discuter est équivalent à être promulgué, et est-ce qu'on n'interrompt pas un travail parlementaire. Donc ça va être aussi... Après, il va falloir réunir 4,5 millions de personnes.
10% du corps électoral.
Ça fait 10%, c'est beaucoup. On n'a jamais fait ça. Même s'il y a eu un précédent qui était sur La Poste, qui avait réuni 2 millions de signatures. Et à la fin, il faut que la loi, le texte de la proposition de loi ne soit pas discuté par l'Assemblée avant d'être proposé au référendum. Donc, c'est une course d'obstacles, parce que tout est fait pour que ce référendum ne soit pas mis en œuvre.
Donc, vous êtes plutôt pessimiste sur son issue?
Je ne sais pas. Les conditions présentes sont très compliquées en ce moment.
On va rentrer un petit peu dans le détail des arguments des uns et des autres. Et d'abord, face à cette fronde, quels sont les arguments de la majorité? Écoutons d'abord l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Aujourd'hui, c'est rentable. Mais moi, je pose une question très simple. Est-ce que c'est le rôle de l'État de faire des beaux commerciaux pour des boutiques de luxe dans des duty-free? Ma réponse est non. Le rôle de l'État, c'est de s'occuper de l'éducation, de la recherche, de la santé, de la justice, de la sécurité. Et donc, il faut aussi savoir dire qu'il y a certaines activités qui doivent être rendues au secteur concurrentiel, ne pas avoir honte de le dire. Que les socialistes se retrouvent à défendre l'idée que le rôle de l'État, c'est de faire des beaux commerciaux dans des zones aéroportuaires, très franchement, je me fais une autre idée de ce que l'État doit faire au service de la population. C'est pas une privatisation, puisque vous le savez, l'État conservera à peu près 20%, que dans 70 ans, il y a un retour dans l'État, donc ça n'est pas une privatisation, faut pas raconter n'importe quoi.
Isabelle Jarjaille, que pensez-vous de cet argument selon lequel ce ne serait pas le rôle de l'État d'exploiter la partie commerciale des aéroports de Paris?
Sincèrement, on est quasiment dans la fausse information quand il dit ça. Et soit on est dans la fausse information, soit on est dans l'incompétence totale. C'est une méconnaissance ou un semblant de méconnaissance totale du principe de la concession aéroportuaire, de la concession de manière générale. C'est-à-dire que un aéroport, il vit sur les recettes des parkings et sur les recettes des commerces. C'est la base, c'est ce qui fait qu'il est rentable, c'est ce qui fait qu'il peut fonctionner. Donc dire l'État n'a pas à gérer ça, c'est totalement absurde. Ce n'est pas dissociable, c'est-à-dire que c'est une société entière et son équilibre économique est basé là-dessus. Donc, contrôler l'aéroport de Paris, qui est quand même, je précise, qui draine 80% du fret au niveau national. Donc c'est un monopole. C'est un monopole stratégique pour la France, pour le transport français, pour l'économie française. Et effectivement, son modèle économique est basé sur les parkings et sur les baux commerciaux. Mais c'est une aberration de dire que l'État n'a pas à gérer ça. Quand il gère l'aéroport de Paris, quand il reste actionnaire majoritaire et que du coup il garde le contrôle sur l'aéroport de Paris, il contrôle ce que va faire la société sur toute son emprise foncière, déjà de 6000 hectares, et également sur ce qu'elle fait au niveau de l'activité aéroportuaire. Donc c'est vraiment absolument un non-sens de dire ça.
C'est un argument qu'on a pu entendre également dans la bouche de Marlène Schiappa. Vous partagez l'avis d'Isabelle Jarjaille et Martine Orange?
De toute façon, un aéroport, sa première fonction, c'est de faire voler des avions, les faire atterrir, les faire décoller, accueillir des passagers, accueillir du fret. Moi, je connais des tas d'aéroports dans le monde où il n'y a pas de duty-free, et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas un aéroport, parce que la première fonction d'un aéroport, c'est le transport aérien. Certes, après, on a amélioré les conditions financières pour rentabiliser, si je puis dire, ces infrastructures avec des systèmes de duty-free et de zones commerciales, mais c'est aussi bénéficier, parce que ça permet de baisser les redevances qui sont demandées aux compagnies aériennes et améliorer les services. mais spontanément, vous n'allez pas à Roissy pour faire vos courses. Vous, c'est juste, vous êtes une clientèle captive parce que vous prenez l'avion. Et c'est bien ça. Et c'est, je veux dire, ce niveau d'argument est totalement consternant, quoi. J'ajouterai une deuxième chose, c'est que quand Monsieur Griveaux dit que ce n'est pas privatisé et que l'État va garder 20%, il a dû se démentir son propos une heure après l'avoir tenu, et puis c'est bien privatisé, puisque l'État, au terme de la concession, si c'était une vraie concession telle qu'elle existe dans le service public, l'État reprendrait la propriété de tous les biens à la fin de la concession. Là, il devrait les racheter à la fin de la concession, ce qui veut bien dire que c'est une privatisation.
Alors c'est un point important, effectivement. Qu'est-ce que ça signifie de devoir racheter ses parts à la fin? Et peut-être qu'il faut préciser d'abord en quoi consiste un contrat de délégation de service public qui peut prendre, entre autres, la forme de la concession, Isabelle Jarjaï.
Oui, alors le dernier point soulevé par Martine Orange est très important parce que c'est la deuxième fausse information qui diffuse régulièrement, c'est le fait que l'État va racheter, j'ai lu ça aussi dans Ouest France, que ADP serait exproprié pour que l'État rachète justement, que l'État récupère donc soi-disant gratuitement. Donc là, on est vraiment dans la fausse information parce que c'est écrit noir sur blanc dans la loi, c'est l'avis du Conseil d'État l'a redit, ils vont racheter ADP à la valeur qu'elle aura dans 70 ans. Une valeur qui est absolument incalculable, donc si on estime qu'elle bouge pas, et en gros, ils rachètent au prix où ils ont vendu. Donc, l'opération est nulle. Si le privé qui a pris le contrôle la rentabilise un maximum, elle a atteint des tarifs qui sont absolument énormes et on ne pourra jamais la récupérer. Et à l'inverse, si le privé ne fait pas le job et ne fait pas d'investissement, la valeur de l'entreprise va baisser. Effectivement, on va la récupérer pour rien du tout. On va récupérer une infrastructure qui ne tiendra plus debout.
Et le plus probable, c'est que l'État ne parvienne pas à racheter dans 70 ans à la concession Martine Orange.
De toute façon, oui, parce que la durée de la concession déjà est prohibitive. On n'a jamais vu des durées de concession qui justifient de cette durée-là. Alors, il nous cite le tunnel sous la Manche, mais le tunnel sous la Manche, il fallait tout faire. Il fallait le construire, il fallait le concevoir, il fallait. Donc,
pardon de vous couper, mais ce qui justifie en effet les concessions, c'est le fait d'investir dans la construction de ces infrastructures.
Oui, mais le ADP, compte tenu de son bilan, est capable de mettre 6 milliards sur 10 ans pour développer une quatrième piste, et encore il faudrait en plus se poser des questions. Est-ce que c'est judicieux pour des termes d'environnement, pour des termes de bruit, pour des termes de d'aménagement du territoire, de remettre une quatrième piste et de développer Roissy en mettant 400 millions de passagers par an? Est-ce que ça aussi, ça, parce que c'est aussi des critères d'environnement, c'est aussi des critères d'aménagement du territoire, c'est aussi tout ça relève aussi de l'intérêt général.
Isabelle Jarjaï.
Oui, et pour revenir sur le système de la concession, alors déjà, en plus, là, ils savent pas exactement ce que ce sera, parce que le Conseil d'État écrit que ce sera un contrat qui n'existe pas, parce qu'effectivement, il n'y a pas de base juridique aujourd'hui pour faire ça. Mais justement, le principe de la concession, et c'est pour ça que c'est très intéressant pour des groupes, notamment comme Vinci, donc il faut savoir que l'activité concession de Vinci, donc autoroute, aéroport notamment, c'est 17% du chiffre d'affaires, sauf que c'est 60% des bénéfices. Donc ça montre bien la rentabilité de la chose. Sur les autoroutes, les sociétés d'autoroutes font 34,7% de marge nette en 2018. Les chiffres sont de l'ARAFER, monsieur Huillard, PDG de Vinci.
L'ARAFER,
l'autorité de régulation du transport et du ferroviaire et routier. Et monsieur Huillard passe son temps dans les médias à expliquer que c'est pas vrai, ces marges sont fausses. Il a jamais apporté d'autres chiffres que ceux de l'ARAFER. Donc on peut en discuter. Et surtout, la concession, le principe, c'est effectivement que normalement, on confie au privé une concession parce qu'on n'a pas les moyens d'investir sur une infrastructure. Il arrive, il va mettre 200, 300, 500 millions d'euros. Et après, pendant 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, il va se rembourser en touchant les redevances. Là, on donne à des privés des infrastructures qui ont été financées par le public. C'est-à-dire que pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est l'actionnaire majoritaire public qui a mis l'argent pour construire l'infrastructure. Et maintenant qu'elles sont rentables, on cède les parts au privé.
Pour bien comprendre, la différence entre la concession et le partenariat public-privé, c'est que dans la concession, l'entreprise privée assume davantage le risque, Martine Orange.
Dans la concession, normalement, il n'y a pas de risque, je veux dire, puisqu'en général, on récupère des infrastructures existantes. C'est pareil pour notamment les réseaux d'eau, les réseaux de gaz, etc. Vous avez des infrastructures qui ont été payées par le public, et à partir de ce moment-là, on en concède la gestion au privé pendant un temps, à charge à lui, de l'améliorer, d'assurer l'entretien, etc. C'est pareil pour les autoroutes. Les autoroutes, on les a concédées et on les a vendues au moment où tout était payé et où elles devenaient rentables.
Et puis il y a peut-être une spécificité dans le cas d'ADP, c'est que l'État va devoir rémunérer les actionnaires minoritaires actuels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, Isabelle Gingey?
Oui, donc il parle de 1 milliard d'euros pour les actionnaires minoritaires. Donc en fait, l'idée, c'est que, en fait, c'est vraiment l'idée que les actionnaires d'ADP aujourd'hui, quels qu'ils soient, du coup, l'État va s'auto-rémunérer, hein, parce qu'en tant qu'actionnaire minoritaire, enfin, il va toucher une part de ce qu'il va donner. Mais l'idée, c'est qu'ils avaient une concession perpétuelle. Et que du coup, on essaye de calculer combien ils perdent en passant d'une concession perpétuelle à une concession de 70 ans. Ce qui est absolument incalculable, encore une fois. Donc, moi, ce que m'a dit un expert comptable assez bien renseigné que j'ai interrogé, il m'a expliqué, il m'a dit, en gros, là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de négocier avec les actionnaires minoritaires et qu'ils essayent de tomber d'accord sur un chiffre pour éviter un recours des actionnaires contre la vente des parts de l'État. Et donc, a priori, d'après ce que dit Bercy, 1 milliard semblerait être un bon chiffre.
Contre 8 milliards que l'État retirerait de la vente.
Donc c'est déjà à soustraire du prix de la vente, quoi.
Alors la question centrale, c'est évidemment s'il s'agit ou pas d'une bonne opération pour l'État. Alors certes, l'État se prive des dividendes, mais en même temps, l'action ADP vaut aujourd'hui plus de 190 euros. C'est le double de sa valeur fin 2016. Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que ce n'est pas le bon moment pour vendre, Martine Orange?
Une infrastructure ne s'évalue pas seulement à un cours de bourse. Vous avez des tas de choses qui doivent rentrer en compte dans une valorisation d'une entreprise. La preuve en est, c'est que par exemple, il y a 8000 hectares d'emprises foncières qui ont été apportées à ADP gratuitement par l'État au jour pour renforcer son bilan en 2005, au moment où il a ouvert son capital. Ces 8000 hectares qui sont des enjeux majeurs, parce que je vous signale, ils sont tous en Île-de-France et dans des points stratégiques. Et là-dessus, ces 8000 hectares n'ont même pas été évalués par les domaines. Donc, on ne sait pas du tout quelle est la valeur de ces 8000 hectares. Mais je peux vous citer des tas d'autres exemples. Et donc, le cours de bourse est un indicateur, mais c'est un indicateur parmi d'autres. En plus de ça, bon, la bonne opération, le gouvernement était incapable d'articuler deux arguments qui étaient convaincants sur ce sujet. On ne se prive pas de 800 millions à 1 milliard de dividendes par an pour, par la suite, dire, je vais, avec le fruit de cette vente, les placer en emprunt d'État qui vont me rapporter 2,5%, 250 millions.
Il y a quand même un argument qui est audible, qui est le fait de vouloir investir grâce au fonds d'innovation qui serait constitué dans la recherche sur l'intelligence artificielle.
C'est une plaisanterie. D'abord, 300 millions, ça suffit pas. En plus de ça, s'il veut faire 300 millions, il peut les lever comme il veut sur tous les capital risques qu'il veut. En plus, est-ce le rôle de l'État de faire un fonds de capital risque? Je veux dire, il y a beaucoup de privés qui savent faire ça. Donc, l'État, c'est pas son rôle non plus.
Isabelle Gingey.
Oui, en plus, il justifie ce fonds capital risque en disant que, soi-disant, c'est plus sécurisé que les dividendes qui seraient versés et qui seraient, eux, aléatoires. Ce qui est absolument faux. Effectivement, on peut pas savoir au montant près combien ils vont toucher chaque année, mais le fait est qu'ADP augmente, le chiffre d'affaires augmente tous les ans, la rentabilité augmente tous les ans, donc les dividendes aussi, et que le risque est très très faible, alors qu'un fonds capital risque, le risque est aussi... Enfin, disons qu'à ce niveau-là, ça se joue pas. Le risque est le même dans les deux cas.
Je rajouterais même une chose, c'est que le risque, il est encore plus grand dans le capital risque, puisque le terme même est capital risque, c'est-à-dire que vous prêtez à des entreprises, et grosso modo, statistiquement, on sait qu'il y en a deux sur dix, il y en a deux qui réussissent, il y en a deux qui font moyen, et il y en a six qui font faillite, parce que c'est ça le capital risque.
Mais alors, est-ce qu'il aurait fallu peut-être séparer la gestion de Roissy et d'Orly, comme le Royaume-Uni l'a fait par exemple avec les deux aéroports de Londres? Isabelle Georgeaille.
Alors, sur ce point-là, je saurais pas répondre. Par contre, en fait, ce qu'il aurait fallu, peut-être, mais dans ce cas-là, l'opération devenait complètement, n'avait plus aucun intérêt, c'était de racheter le foncier, que l'État rachète le foncier avant de vendre ADP. Mais donc, du coup, là, l'opération n'avait plus aucun intérêt financier. Parce que sur l'histoire du foncier, ce qui est aussi très, très important, c'est que sur les 6000 hectares, il y a 2000 hectares qui sont dédiés tout ce qui est commerce et immobilier. Donc, qui sont pas dédiés à la stratégie aéroportuaire. Donc, on peut en faire, en théorie, un peu ce qu'on veut. Et donc, en fait, là, il reste 400 hectares de réserves foncières qui, aujourd'hui, sont libres. Donc, la question, c'est que si on donne un prêt, comment on contrôle ensuite ce qu'il va faire? Alors, ça peut être, c'est-à-dire, par exemple, un projet comme Europa City qui est controversé, même si aujourd'hui il y a les autorisations, mais, ou un autre projet qui aurait été retoqué à un endroit, on peut très bien imaginer qu'un promoteur puisse venir voir celui qui aura acheté les parts d'ADP, l'actionnaire majoritaire, en disant, vous avez 400 hectares, ça m'intéresse. Et comment l'État va contrôler ça? Alors, eux, ils nous disent que oui, ils vont mettre un contrôle très fort. Et en fait, ce qu'on se rend compte dans le système des concessions, que ce soit sur les autoroutes, l'eau ou tous les sujets, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Et pourquoi il n'y a pas de contrôle? Parce qu'en fait, l'État, la puissance publique, n'a pas de regard sur ce que fait vraiment la société. C'est pas du tout transparent et qu'ils n'ont aucune information.
Alors, justement, sur la question du contrôle, on peut écouter Bruno Le Maire. Il répondait aux questions des journalistes de Boursorama en octobre dernier.
Il y aura un cahier des charges très strict pour le futur ou les futurs investisseurs dans Aéroports de Paris. Sur les redevances, c'est-à-dire les tarifs aéroportuaires, qui est la question clé, ils seront négociés tous les 5 ans avec l'État. Si jamais nous ne sommes pas d'accord avec le futur actionnaire d'ADP, c'est l'État qui aura le dernier mot. L'État contrôle les tarifs. L'État contrôle les investissements. Et au bout de la concession, c'est-à-dire au bout des 70 ans, l'État récupère l'intégralité des actifs d'Aéroports de Paris.
Voilà, on entendait donc Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. L'État régulateur pourrait-il être finalement en meilleure position pour contrôler ADP que l'État actionnaire, dans la mesure où il ne sera plus en situation de conflit d'intérêts, Martine Orange?
Oui, d'abord, il n'y a pas de situation de conflit d'intérêts entre l'État actionnaire et l'État régulateur. Et ça, c'est la vieille lanterne des libéraux, si je puis dire. À chaque fois, l'État n'a plus à intervenir dans l'économie et il doit être le régulateur et l'arbitre des élégances des activités privées. Or, on s'aperçoit, justement, parce qu'on a des précédents quand même, on a des précédents sur la régulation sur l'eau, on a des précédents sur la régulation de l'énergie, on a même des précédents sur l'aéroport de Paris, parce que il y a eu déjà des conflits quand Monsieur Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Aéroport de Paris a voulu augmenter ses redevances de plus de 2%. L'autorité de la concurrence a dit non. Le gouvernement a dit non. Et finalement, Emmanuel Macron a réussi à emporter l'arbitrage contre le ministre des Transports, et les redevances ont bien augmenté. Et le cahier des charges, le problème, c'est que vous êtes dans une opacité totale des cahiers des charges et des contrats. On sait ce qu'il en est pour les autoroutes, on sait ce qu'il en est pour les concessions d'eau. Je vais même vous citer un exemple. Les sénateurs ont demandé à avoir accès au cahier des charges de privatisation. Ils ont ce cahier des charges de privatisation d'ADP. Il aura été mis dans une salle au 3e étage du Sénat. Ils ne pouvaient y aller qu'un par un. Il fait 56 pages. Ils ne peuvent pas en dire un mot. Ils ne peuvent pas en prendre une note. Et ils ne peuvent pas en parler. C'est ça les contrats de concession aujourd'hui. C'est que, au nom du secret commercial, au nom du secret des affaires, au nom de la concurrence, vous n'avez plus aucun regard sur l'intérêt général et l'intérêt public.
Alors, il y a la question de l'opacité, en effet, qui est importante. Et cette question centrale, est-ce que l'État réussira à imposer à une entreprise privée, par exemple, de moins augmenter justement les redevances aéroportuaires, Isabelle Georgeaille?
C'est ce que vient de dire Martine Orange. Non, ça a déjà été le cas. Ils ne sont pas arrivés alors qu'ils étaient déjà actionnaires majoritaires et il n'y a pas de raison qu'ils y arrivent plus aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on voit très très bien sur les autoroutes. Alors là, l'exemple est flagrant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ARAFER a été créée pour reprendre le contrôle sur la hausse des péages. Ce qui d'ailleurs ne change rien parce que l'ARAFER émet des avis qui ne sont pas entendus. Donc, de toute façon, ça ne change rien.
Martine Roche.
Je veux juste préciser, l'affaire est là et elle fait que l'arbitre des élégances une fois de plus, puisque tout a été signé par contrat sur le niveau de rémunération et d'augmentation annuelle des autoroutes en 2015, que ce contrat que Mediapart a publié était resté secret et les députés, même l'ARAFER ne l'avait pas. Pour vous dire. Et donc, à partir de ce moment-là, l'ARAFER ne peut que s'en tenir en disant oui, mais c'est de l'ordre du contrat, vous n'avez plus le droit d'y toucher. Et lorsque il y a eu un gel des augmentations en 2015, il y a eu un rattrapage qui selon l'ARAFER, entraîne un surcoût de 500 millions pour les automobilistes par rapport à ce qui était prévu. Parce qu'il y a des pénalités qui s'appliquent.
Alors vous parlez des autoroutes et en effet Vinci apparaît aujourd'hui comme l'un des principaux candidats possibles au rachat des parts de l'État dans ADP. Mais alors si Vinci Airports rachète en effet ses parts, le groupe va contrôler une part considérable de la desserte du territoire. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Isabelle Chargeil?
Donc déjà, il sera le premier groupe aéroportuaire. S'il obtient ADP, de fait, il deviendra mondial, je veux dire, au niveau mondial. Au niveau national, il aura 12 aéroports plus ADP, qui représente, je ne sais plus, c'est 60 ou 70% du trafic voyageur sur la France, enfin, c'est quelque chose comme ça. Donc, il aura quasiment un monopole sur la France. Et effectivement, il y a des risques. En fait, le risque, c'est que, parce que par contre, il y a un point, moi, sur lequel, pour l'instant, je n'ai pas d'éléments contre la gestion des groupes comme Vinci, c'est qu'a priori, ils sont plutôt bons gestionnaires dans le sens où ils font ce qu'il faut au niveau de l'infrastructure. Généralement, pour l'instant, on n'a pas trop d'exemples où vraiment ça dépérit.
Par rapport à ce qu'on peut voir du côté de Toulouse, Blagnac,
voilà,
sur lequel on va
revenir. Par exemple, et puis c'est surtout qu'il gère la stratégie, enfin l'aéroportuaire, ça il le gère. Par contre, ils essayent de tirer un maximum de bénéfices, donc c'est plutôt là, c'est que l'argent d'une infrastructure publique part dans les poches du privé, et c'est surtout qu'au niveau national, le risque, c'est que leur stratégie à eux, commerciale, prenne le pas sur la stratégie de transport nationale française. Et donc tout simplement, c'est le fait que vous avez Rennes, Nantes, Lyon, qui sont gérés par Vinci, Toulouse, donc qui est géré par quasi l'Europe. Et donc on peut imaginer, enfin c'est pas une imagination, c'est que ça se fait aujourd'hui, c'est que Vinci favorise par exemple les liaisons entre ses propres plateformes et il va pas forcément favoriser les lignes qui vont vers Toulouse. Et notamment aussi, il favorise les plateformes les plus rentables pour lui. Et par exemple, Clermont-Ferrand a perdu de l'activité, c'est aussi géré par Vinci Airport, parce qu'ils ont préféré reporter le trafic sur Lyon-Saint-Exupéry, qui était beaucoup plus intéressant pour eux. Et donc à la fin, on se retrouve avec des collectivités territoriales qui essayent, elles, de mettre en place des stratégies pour développer leur territoire, qui mettent de l'argent sur ces infrastructures, qui essaient de développer, d'aménager leur territoire autour de ça, et qui sont face à des privés actionnaires majoritaires, ou même pas majoritaires, mais de toute façon, même quand ils sont à 49,9%, ils arrivent quand même à avoir le pouvoir, et qui, eux, décident que, non, vous voulez votre aéroport à Clermont, nous on estime qu'il faut aller à Lyon-Saint-Exupéry, et puis tant pis pour vous, quoi.
Vinci exploite aujourd'hui l'aéroport de Nantes-Atlantique, et le contrat qui lie l'État à Vinci le lie pour l'exploitation de Nantes-Atlantique et la construction de Notre-Dame-des-Landes. Il est bien clair que dès lors que nous abandonnons le projet de construction de Notre-Dame-des-Landes, il va y avoir une discussion entre l'État et son concessionnaire, qui portera sur les conditions dans lesquelles il peut y avoir ou non indemnisation, et les conditions dans lesquelles on va exploiter à l'avenir Nantes-Atlantique, y compris en finançant un certain nombre de travaux qui permettront plus de fluidité et un meilleur accueil des passagers. Cette discussion, elle va commencer sans délai avec Vinci. Elle sera menée avec le souci de respecter le droit et le souci de préserver les intérêts de l'État. Et j'ai bon espoir que la solution, qui sera publique, car je m'engage à ce que tout soit public en la matière, sera conforme aux intérêts de l'État.
Voilà, on entendait le Premier ministre Édouard Philippe, invité du JT de TF1 le 17 janvier 2018. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer du contrat passé entre l'État et Vinci au sujet de Notre-Dame-des-Landes, Martine Orange?
Il y a quelque chose qu'on oublie quand même, et qui était quand même à l'origine de la concession de Vinci sur Nantes, c'est qu'on lui a donné la concession de l'aéroport de Nantes pour lui permettre de financer l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et que c'était les redevances de l'aéroport de Nantes qui devaient permettre de financer le nouveau projet aéroportuaire. Là-dessus, pendant 15 ans, si je puis dire, ou 10 ans, Notre-Dame, depuis que le projet... je ne sais plus quand est-ce que Vinci a eu cette concession, je crois que c'est 10 ans. Il a exploité l'aéroport de Nantes, qui lui a rapporté quand même 100 millions de bénéfices par an. 100 millions de bénéfices par an qui n'ont pas été réinvestis dans la mesure où, comme le projet était gelé, les dépenses qu'a pu faire Vinci sur Notre-Dame-des-Landes sont absolument minorées, quoi. Je veux dire, il y a eu peut-être des études de conception, des études d'impact, etc. Mais ça n'a pas du tout en rapport avec l'exploitation de la construction d'un nouveau projet.
Donc la question, pendant c'est
il a eu ses redevances. Et donc l'État fait comme si il y avait un dol manifeste à l'égard de Vinci parce que le contrat n'a pas été respecté, mais on oublie toujours la deuxième branche du contrat qui était la concession de Nantes.
Isabelle Georgeil.
Oui, alors en fait c'est 100 millions sur les 10 ans. Ils sont arrivés aujourd'hui à peu près à 100 millions d'euros de bénéfices. Mais par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça continue à grossir parce qu'en fait ils ont toujours l'exploitation de Nantes Atlantique. Le gouvernement parle d'une fin de contrat, de résilier le contrat à échelle de 2022-2023. Mais en fait tout ça c'est pareil. Ils ont un calendrier en tête, mais comme il faut d'abord lancer le projet de réaménagement de Nantes Atlantique, c'est évident que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, donc ça va durer encore très longtemps. Donc ça, c'est à peu près 15 millions d'euros de bénéfices par an. Donc vous rajoutez 15 millions sur 4, 5, 6 années. Donc ils vont peut-être finir à 150, ils peuvent finir à 150 millions d'euros de bénéfices sur Nantes Atlantique. Et sur Nantes Atlantique, ils n'ont fait que 9 millions d'euros d'investissement depuis 10 ans. Ça, c'est le Conseil d'État qui le dit. Donc évidemment, ils pourraient repartir avec cet argent. En fait, légalement, il n'y a rien pour leur demander de récupérer cette cagnotte. Là où l'État devrait avoir son mot à dire, c'est qu'il est censé négocier les indemnités de départ de Vinci. Parce que comme le contrat de Notre-Dame-des-Landes va être résilié, il y aura des indemnités de résiliation. Ça c'est normal, ça fait partie du contrat. Et le Conseil d'État estime ça à environ 350 millions d'euros. Et donc si l'État était assez fort face à Vinci, il pourrait déduire les 100 millions d'euros de cette indemnité. Sauf qu'on voit bien aujourd'hui que le rapport de force entre l'État et un groupe comme Vinci, généralement, il n'est pas du côté de l'État.
On va peut-être pas noyer trop nos auditeurs avec des chiffres, mais en tout cas, est-ce que c'est ce qui explique, Martine Orange, qu'aujourd'hui, de nombreux élus de l'opposition dénoncent ce qui s'appelle un cadeau à Vinci ou encore un capitalisme de connivence?
C'est-à-dire qu'on a tout le monde a analysé que ADP était un peu une compensation à l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, même si le projet de privatisation d'ADP est depuis longtemps en route et que ce n'est pas par hasard que Vinci a pris 8% du capital d'ADP depuis plusieurs années. Donc là-dessus, je pense que il faut revenir quand même sur le préjudice subi par ADP sur Notre-Dame-des-Landes. Le préjudice est certes un peu réel, mais c'est en fait un manque à gagner plus qu'un préjudice. Et d'autre part, ça pose toujours le problème parce que les contrats de concession, comme de par hasard, sont faits de telle sorte qu'ils mettent l'État dans un étau où c'est toujours au préjudice de l'État. Et il faut se poser la question de qui négocie les termes juridiques de ces contrats et qui est responsable.
Isabelle Georgeil.
Et sur ce point, en fait, il y a un vrai problème concernant Notre-Dame-des-Landes, c'est que la question, c'est pourquoi avoir signé ce contrat maintenant, à ce moment-là. Ils ont signé en 2010, alors qu'il n'y avait rien d'avancé sur le chantier. Donc, à la limite, si on se dit ils signent pour faire bouger les choses, maintenant, ces cas-là, ils signent en décembre 2010, en janvier 2011, il y a des bulldozers sur le terrain, et bon, c'est parti, on y va. Et en fait, ils n'ont rien fait. Et moi, ce que m'a dit Dominique Bussereau, qui était secrétaire d'État au transport à l'époque, il me dit, en gros, c'était le projet de Monsieur Fillon et de Monsieur Hérault. Et nous, on a signé pour leur faire plaisir, hein, très concrètement. Puis Monsieur Fillon était Premier ministre. Après, on est passé on était dans la phase de campagne présidentielle. On s'est dit qu'avec un peu de chance, il y avait des chances pour que Hollande gagne, que du coup Monsieur Hérault passe Premier ministre. Et on lui a laissé son bébé. Et effectivement, lui, en 2012, il a fait ce qu'on a appelé l'opération César pour essayer de déloger la ZAD qui s'était développée entre temps. Mais en fait, ils ont fait de la méthode couée, c'est-à-dire qu'ils ont ont demandé, les élus locaux et les acteurs locaux ont demandé à l'État de signer un contrat, de s'engager contractuellement avec un privé, en espérant que comme il était engagé, l'État ferait. Sauf que l'État d'ailleurs n'a rien fait, et à la sortie, ça coûte 500 millions d'euros d'argent public.
Et puis le problème, c'est que ça alimente les soupçons de conflits d'intérêts, notamment à cause des allers-retours que l'on peut constater de certaines personnalités entre la haute fonction publique et le secteur des transports et du BTP, Martine Orange.
Ah ouais, c'est une des sources aussi de problèmes de ce type de contrat. C'est-à-dire qu'on voit bien que le système de porte de revolving door, c'est-à-dire de pantouflage entre aller entre privé et public, notamment entre le ministère des transports, notamment et le ministère des finances et ce type de groupe ne cesse d'aller venir. C'est-à-dire que vous avez une capture de la décision d'État par des gens qui ont des intérêts privés à défendre.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
Minuit, Orly, c'est l'heure des adieux. Déjà les jets intercontinentaux au loin crachent leur feu sur les pistes géantes. C'est l'heure des adieux, c'est l'heure des adieux. Des étoiles mouvantes dansent devant mes yeux. À l'heure des adieux, minuit, Orly, c'est l'heure des adieux. Déjà la ville scintille, très loin, bien au-dessous de moi, très loin dans la plaine là-bas, déjà scintille à peine. Ah, qu'il est triste ce voyage! Sans mer et sans rivage, je me languis déjà, déjà de toi. Minuit, Orly, c'est l'heure des adieux. Un long courrier qui gronde au dernier feu s'envole vers le levant dans la lumière couchante. C'est l'heure des adieux. C'est l'heure des adieux. Un avion qui s'arrache et plonge dans les cieux. À l'heure des adieux, à l'heure des adieux.
Minuit, Orly de Jeanne Moreau sur France Culture. C'est dernier épisode de notre série consacrée à l'économie de l'aviation dans Entendez-vous l'écho. Martine Orange et Isabelle Jarjaï sont avec nous pour parler de la privatisation contestée des aéroports français. Alors revenons quelques années en arrière. Historiquement, c'était les chambres de commerce et d'industrie qui géraient les aéroports régionaux. Mais alors qu'est-ce que la réforme de 2005 a changé à cela, Martine Orange?
La réforme de 2005, à partir de ce moment-là, était justifiée, ou en tout cas était justifiée pour favoriser les investissements, le renouvellement et le développement du transport aérien. À partir de ce moment-là, on a transformé le capital des aéroports et on en a fait comme des sociétés privées anonymes et on a ouvert le tour de table et en disant toujours, il faut que des investisseurs privés participent aux investissements et nous aide à financer ces infrastructures, mais ça restera toujours sous contrôle public et avec un droit de regard sur la... J'ajoute quand même sur la au moment de la discussion de 2005, bien évidemment, tous les efforts s'étaient concentrés sur ADP. Et là-dessus, il avait quand même été acté par le rapporteur de la loi et lors de la discussion de la loi, que ADP était un monopole physique, qu'il rendait un service public national, et que donc, dans ces termes-là, il relevait de l'article 9 de la Constitution qui interdit toute privatisation.
D'où le fait que Stéphane Peu, au début de cette émission, parlait d'une erreur démocratique.
Et il semble que, parce que il faut revenir à la base, c'est un monopole, et il faudra, on aura beaucoup de mal à nous démontrer que ça n'est pas un. Et donc, la Constitution est là et interdit la privatisation d'un monopole.
Et en tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est à partir de 2005 que les groupes Vinci ou SNC-Lavalin se sont vus confier l'exploitation de petits aéroports régionaux comme Rennes, Quimper, Caen ou encore Pau, Isabelle Jarjaï.
Oui, alors concernant Vinci, je crois qu'ils sont arrivés un petit peu plus tard. Ils ont commencé en 2007-2008. En fait, c'est des ouvertures de capital. C'est exactement le même principe que les sociétés d'autoroutes. C'est qu'ils ont ouvert le capital et l'État a fait ce qu'il a fait, par exemple, à Toulouse. C'est-à-dire qu'il a vendu ses parts. Et que du coup, par exemple, à Rennes, la CCI reste majoritaire à 50,1%, alors que Vinci a l'autre moitié. Et donc, ils ont pris comme ça, effectivement, une douzaine d'aéroports régionaux.
Si elle y soit, au nom de tous les Français qui se sentent volés, spoliés aujourd'hui, se mobilisent, les sénateurs, sans nul doute, voteront contre cette disposition, comme contre le texte.
À voter.
Je veux garder à Nice notre aéroport qui nous appartient. Voilà. On l'a payé et on veut le garder.
Je suis venu voter pour que l'aéroport reste propriété de Nice. Et que ça ne nous enlève pas du travail pour nos jeunes.
L'aéroport n'appartient pas à l'État, il appartient aux contribuables qui ont payé pour le construire.
On entendait Christian Estrosi d'abord, donc le maire de Nice, et des témoignages recueillis par des journalistes de France 2 en février 2015. Il y a eu alors une résistance importante à la privatisation de la gestion de l'aéroport de Nice, Martine Orange.
Il y a eu, oui, une résistance importante pour la privatisation de l'aéroport de Nice. Il y a eu aussi une résistance importante pour la privatisation de Toulouse. Et on s'aperçoit d'ailleurs, ce n'est pas étranger à ce qui se passe aujourd'hui autour d'ADP, c'est que ces opérations ont été menées avec un État qui a menti notoirement à Toulouse, où il a dit non, je ne privatise pas, alors qu'il a passé un pacte d'actionnaires secrets avec la société.
On va revenir sur Toulouse dans un instant,
vous voyez, c'est non seulement, c'était d'abord, il est passé outre un référendum d'initiative locale, là, qui était un indicateur, même si c'était pas obligé. Et en plus de ça, on s'aperçoit que par la suite, cette opération a été menée, c'est la Cour des comptes qui l'a raconté, en parfait conflit d'intérêts avec un banquier d'affaires qui avait été avant au ministère des Finances et qui est passé à Mediobanca, qui a été la banque actionnaire et qui en même temps était actionnaire du pool qui allait reprendre Nice. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui était à toutes les étapes du le conflit d'intérêts majeur. Comme de par hasard, la Cour des comptes pointe ce chose, je n'ai pas entendu que ça ait donné lieu à quelques rappels à l'ordre de la justice.
Mais alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que c'est la concession en elle-même qui vous semble problématique, ou est-ce que cela dépend du contrat qui est passé? En l'occurrence, on a donc un certain nombre d'exemples, Rennes, Nice, Lyon. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de la privatisation de la gestion de ces aéroports? Est-ce que ça a eu des effets indésirables?
Alors oui, effectivement, on le voit, c'est surtout sur l'aspect financier et sur la baisse des coûts et des charges dans les sociétés d'exploitation des aéroports. Donc il faut bien noter qu'à la différence d'ADP, sur ces aéroports-là, le public reste propriétaire de l'infrastructure et du foncier, ce qui est quand même majeur. Mais par contre, il perd totalement le contrôle de la société qui l'exploite. Et donc c'est ce qui s'est passé à Toulouse, où là, ça explose vraiment. C'est-à-dire que l'Europe, l'actionnaire chinois, donc qui est lié par un pacte d'actionnaires, enfin dont l'État est lié par un pacte d'actionnaires et qui du coup devient majoritaire au sein de la société. En fait, ils sont arrivés en 2015. Dès 2016, ils ont décidé de se verser l'intégralité du résultat. Comme ça ne leur suffisait pas, ils sont allés piocher dans la trésorerie pour récupérer 15 millions d'euros. L'année d'après, ils rebelotent, ils piochent 1,5 million dans la trésorerie. Et comme ils trouvent que le résultat n'est quand même pas encore assez important en termes de dividendes, ils ont mis en place une modification des règles comptables qui a doublé le résultat net entre 2017 et 2018, donc x2. Et ce résultat net, ils ont acté en décembre dernier, le fait que désormais, ils se le reverseraient 100% dans les poches des actionnaires. Donc c'est de l'argent qui ne va plus, le bénéfice de l'aéroport de Toulouse ne revient plus à l'infrastructure, il part dans les poches des actionnaires, dont Casil Europe, actionnaire majoritaire.
Alors revenons d'abord aux origines de cette histoire. En 2014, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron était alors ministre de l'économie et il est interpellé par Noël Mamère.
Le premier marché demain d'Airbus, ce sera la Chine. Et donc, on ne peut pas expliquer à la Chine qu'elle est bien placée quand il s'agit de vendre des avions, mais que les investisseurs chinois qui ont structuré, qui ont fait une offre avec un vrai projet industriel et des vraies garanties sociales ne seraient pas bienvenus sur notre territoire.
Ce pacte d'actionnaires, il donne l'entière responsabilité à l'acquéreur chinois de faire ce qu'il veut dans le rachat de l'aéroport de Toulouse. Et d'ailleurs, je peux lire ceci, qui est très facile à comprendre. L'État s'engage d'ores et déjà à ne pas faire obstacle à l'adoption de décisions prises en conformité avec le projet industriel, tel que développé par l'acquéreur dans son offre, et notamment les investissements et budgets conformes avec les lignes directrices de cette offre. Si ce n'est pas laisser l'entière responsabilité au nouvel acquéreur et nous faire croire encore que les collectivités locales telles que la région, le département, la CCI et la communauté urbaine du Grand Toulouse auraient encore leur mot à dire, c'est un mensonge et nous le dénonçons.
Voilà, et la question qui se pose, c'est est-ce que l'État a accepté, en effet, ce pacte d'actionnaires dans la perspective de vendre davantage d'Airbus à la Chine ?
Non, mais c'est un argument totalement fallacieux, une fois de plus. Je veux dire, on peut vendre des Airbus sans donner des infrastructures à la Chine. Je rajouterais que M. Macron, qui maintenant plaide pour des investissements équilibrés, justes, et etc., est-ce que nous avons le droit d'acheter des aéroports en Chine ? Ben, la réponse est non. Donc, où est la réciprocité? Déjà, il y a un principe de réciprocité. Et vous voyez bien que Noël Mamère a eu tout juste depuis le début sur cette chose, puisqu'on en arrive maintenant à la chose où le Chinois, estimant que ce n'est pas suffisamment rentable, veut revendre ses parts avec une plus-value en faisant une culbute, disons, multipliée par deux, en gros.
Passerait de 308 millions à 500 millions.
Oui. Et en moins de 4 ans, et qu'il est libre de choisir le repreneur sans que personne ne puisse dire son mot. Si demain, je vais faire une hypothèse d'école, Vinci prend la concession d'ADP et décide qu'à un moment, il revend un groupe chinois, par exemple, l'État se retrouvera exactement dans la même situation. Il a beau dire que maintenant il aura un droit de regard sur le repreneur.
Justement, est-ce qu'il n'y aurait pas des garde-fous tout de même qui existent et qui permettraient à l'État de contrôler dans ce cas-là la cession de
Le problème, c'est que dans tous les précédents qu'on a vus, tous les contrats juridiques font que l'État se met organise son impuissance. Et donc, à partir de ce moment-là, il est quand même un peu légitime de questionner la décision d'État et la volonté d'État d'organiser un contrôle et une transparence.
Pour bien comprendre ce qui est reproché aujourd'hui à Casil Europe, donc qui regroupe les investisseurs chinois de Toulouse-Blagnac, c'est de puiser dans les réserves sans investir, à tel point que la Cour des comptes a estimé en novembre que la vente des parts de l'État dans l'aéroport de Toulouse avait été un échec total.
Oui, alors en fait, ils investissent, il y a des investissements, mais ils investissent en faisant de l'emprunt, ils n'investissent pas sur fonds propres. Donc en fait, concrètement, ils ont taillé dans la trésorerie, ils ne la remplissent plus, alors qu'avant, le résultat net pour moitié était reversé à la trésorerie, avant que Casil Europe arrive. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui rentre dans la trésorerie, ils ont pompé dedans, il n'y a plus rien qui rentre dedans. Par contre, à côté de ça, ils ont recours à l'emprunt pour investir, donc la dette augmente, la trésorerie a baissé, et tous les bénéfices de l'infrastructure jusqu'en 2023 seront reversés en intégralité aux actionnaires.
Mais comment justement ont-ils obtenu que 100% des dividendes soient reversés aux actionnaires ?
Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a ce fameux pacte d'actionnaires qui fait que l'État est obligé de suivre toutes les décisions de Casil, donc ils ont la majorité des voix au Conseil de surveillance et en Assemblée générale, donc s'ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent.
Mais alors même qu'ils ont 49% des parts.
Voilà. Mais là où c'est d'autant plus intéressant, c'est que les collectivités locales, territoriales, qui publiquement disent qu'elles ne soutiennent pas cette politique, en décembre, quand on leur a demandé si elles étaient pour ou contre le fait de reverser 100% du résultat net, elles ont voté pour.
Et alors,
moi, j'ai les papiers. Je n'ai pas la réponse, parce que là, personne n'a voulu répondre à ça.
Mais alors, c'est intéressant de voir que le cas de Toulouse-Blagnac est peut-être emblématique, effectivement, de l'échec possible des privatisations de gestion.
Il va y avoir quand même un résultat, puisque d'abord, il y a un procès qui est devant le tribunal administratif, et le rapporteur a demandé l'annulation de la vente de Toulouse-Blagnac, considérant que l'appel d'offres avait été vicié puisqu'il y avait eu modification dans la procédure de vente.
On peut annuler vente 4 ans après ?
Donc oui, absolument. Ce qui risque de c'est il faut voir si le tribunal va suivre la décision, mais si elle suit la décision, ça va mettre un peu d'ambiance sur Toulouse-Blagnac.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être sur la gestion des services publics par le privé. Est-ce que tout dépend en réalité finalement des modalités prévues dans le contrat passé entre l'État et les entreprises privées, Isabelle Georgeil?
Oui, alors clairement il y a beaucoup de choses qui jouent dans le contrat, mais il y a aussi, c'est aussi le pouvoir public qui doit rester actionnaire majoritaire et garder le pouvoir pour être présent au quotidien dans la société. Et par exemple, on a Rennes qui est l'aéroport de Rennes qui est propriété de la région Bretagne. La région Bretagne qui globalement gère beaucoup d'aéroports et fait quand même un bon boulot pour essayer de gérer au mieux ses concessions. Mais là, typiquement, ils sont plus dans la société qui exploite l'aéroport de Rennes. Concrètement, Vinci et la CCI ont mis en place des phénomènes qui font que typiquement la société emprunte à des taux de 10% à Vinci directement au lieu de piocher dans sa trésorerie de 14 millions d'euros, de 11 millions d'euros pardon. Et donc ça nuit à la santé financière de la société. Et concrètement, les actionnaires n'ont investi que 4 millions d'euros. La région a investi 8. Les actionnaires ont touché 2 millions d'euros de dividendes. La région n'a rien touché du tout. Donc à la sortie, le public investit et c'est le privé qui empêche les bénéfices.
Mais alors ça, c'est une situation qui peut être empêchée quand l'État, justement, est un actionnaire majoritaire, Martine Orange?
Il n'y a pas seulement... C'est un port très important qu'il soit présent. Mais il y a aussi une volonté. Parce que quand on décide de dire que non, c'est plus intéressant, si l'État est absent, si l'État laisse faire, si l'État n'a aucune volonté, si l'État part du principe qu'il ne doit pas changer ni les hommes, ni les structures, ni les choses, il n'y a rien à faire. C'est aussi une volonté d'État d'abord.
Une question de volonté politique, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à toutes les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur l'ouverture du 8e sommet international entre la Chine et les États d'Europe de l'Est.
Absolument. Aujourd'hui même s'ouvre à Dubrovnik, capitale de la Croatie, le sommet 10-16+1 qui rassemble 16 pays d'Europe orientale plus la Chine. Ce rassemblement vient consacrer la politique d'influence économique et politique de l'empire du milieu au centre de l'Europe. Il faut dire que ces États, baltes et anciens membres du bloc soviétique, ont une place particulière dans la stratégie développée par la Chine depuis plusieurs années. Elle a ainsi lancé en 2013 les Nouvelles Routes de la Soie, une initiative visant à étendre la puissance économique et politique du pays en investissant massivement dans le domaine des infrastructures et du commerce.
Dans ce cadre, les pays de l'Est européen représentent donc la porte d'entrée vers le vieux continent.
Exactement, autant de gouvernements qui se frottent les mains à la vue des investissements mirifiques que la Chine promet de réaliser dans leur pays. Cette dernière a d'ores et déjà engagé plusieurs milliards de dollars dans le développement de la région. On peut ainsi citer la construction d'une ligne de train à grande vitesse entre Athènes et Budapest via Belgrade. Face à cette prise d'intérêt sans précédent, l'Union européenne tente vainement de réagir et dénonce les agissements de cette rivale systémique, comme la qualifie désormais l'Union. On peut néanmoins s'étonner de ce qui ressemble à une prise de conscience tardive de la part de l'Union. Ce n'est en effet pas la première fois que la Chine déploie ses formidables ressources financières pour prendre le contrôle d'infrastructures stratégiques sur le vieux continent.
On a notamment en tête le rachat du port du Pirée par l'armateur Cosco.
Exactement. En 2016, le géant chinois du transport maritime devenait l'actionnaire majoritaire du principal port grec en rachetant 67% du capital à l'État. Il a ainsi déboursé pour cela près de 370 millions d'euros et promis d'investir autant dans le développement du site. Mais la présence de la Chine ne se limite évidemment pas à cet investissement, fut-il éminemment stratégique. En atteste la décision du gouvernement italien de rejoindre officiellement les nouvelles routes de la soie. Depuis la crise des dettes souveraines, les autorités chinoises ont su nouer des relations fructueuses avec l'ensemble des pays du sud européen. Et pour cause, alors que l'Union européenne imposait à la Grèce, à l'Italie ou encore au Portugal une cure d'austérité sans précédent, la Chine frappait elle à leur porte, leur promettant argent frais et investissement. C'est ainsi ce qu'explique Régis Soubrouillard dans son ouvrage « La France made in China ». Il rappelle ainsi qu'en 2008, le Parti communiste chinois lance un grand plan de relance fondé sur l'investissement d'un montant de plus de 450 milliards d'euros. Les États du sud de l'Europe, rendus exsangues par la politique austéritaire de Bruxelles, apparaissent alors comme la destination idéale pour les financements chinois. Ce sont ainsi 10% des ports européens qui sont aujourd'hui détenus par des entreprises chinoises.
Pourtant, à l'époque, ces investissements massifs n'émeuvent pas grand monde en général.
Non, effectivement. Si le précédent interpelle et choque un certain nombre d'observateurs, l'Union européenne ne lève alors pas le petit doigt pour empêcher la privatisation du Pirée. Il faut dire que les circonstances sont alors bien différentes. La Grèce cherche à se renflouer pour pouvoir payer ses créanciers et satisfaire aux exigences draconiennes de l'Union. Les Chinois sont alors vus comme une source providentielle d'argent frais. Qu'importe si l'économie grecque, déjà à genoux, doit vendre ses biens stratégiques pour rembourser sa dette. La Grèce a péché par excès de déficit et doit donc se racheter. Et si, en plus, cela peut servir d'exemple au Portugal, à l'Italie et même à la France, alors tant mieux. Aujourd'hui, l'Union tente désespérément de mettre un frein à ses velléités économiques de puissance. Un réveil qui semble néanmoins un peu tardif.
Merci beaucoup Arjuna Andrade. Et à vos côtés se trouve Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques, qui nous rejoint à cette table un jeudi sur deux. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors quel est le chiffre du jour?
C'est zéro. C'est la hausse de la taxe carbone prévue jusqu'à la fin du quinquennat. Sur la plupart des sujets, on attend encore qu'Emmanuel Macron nous dise les conclusions qu'il a tirées du grand débat. Mais sur celui-ci, l'exécutif a tranché. Les taxes sur le gasoil, l'essence et le gaz n'augmenteront plus d'ici 2022, contrairement à ce qui était prévu dans le plan climat de Nicolas Hulot.
Il faut dire, Guillaume, que c'est cette hausse qui avait mis le feu aux poudres du mouvement des Gilets jaunes.
C'est vrai, mais sa mise en œuvre relevait quasiment du sabotage. Une des seules choses que Nicolas Hulot avait obtenues quand il était ministre de l'écologie, c'était une accélération de la hausse de la taxe carbone par rapport à ce qui était prévu sous François Hollande. C'était en effet un des rares sujets sur lequel sa volonté d'accélérer la transition était en ligne avec les desiderata de Bercy, qui cherchaient évidemment à remplir les caisses de l'État. Et cela d'autant plus que dans le même temps, Emmanuel Macron supprimait quasiment l'impôt sur la fortune et abaissait fortement la fiscalité et revenus du capital. Combiné à une hausse des prix du pétrole sur les marchés, il n'est pas surprenant que ce cocktail grossièrement injuste ait mis le feu aux poudres.
Mais en même temps, après ce qui s'est passé depuis 6 mois, est-ce qu'on pouvait faire autrement que d'arrêter les frais, Guillaume ?
Ce n'était évidemment pas facile de continuer, mais il me semble que c'était possible. Cela impliquait bien entendu de revenir de façon substantielle sur les cadeaux fiscaux aux plus aisés, tout en accroissant fortement la part des rentrées des taxes sur les carburants redistribuées aux plus vulnérables. Sur la manière de faire, on dispose de propositions de gens qui ne sont pas de dangereux gauchistes, comme le think tank Terra Nova ou le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Cela peut paraître idiot de redonner d'une main ce qu'on prend de l'autre, mais en matière écologique, c'est efficace. Comme les carburants fossiles coûtent de plus en plus cher, les gens restent incités à faire autre chose de l'argent que vous leur rendez que de continuer à acheter du gaz ou du gazoil. Mais plutôt que de rentrer dans cette mécanique un peu complexe qui impliquait en particulier un changement de cap important en matière de fiscalité sur les plus riches, le gouvernement a préféré la voie de la facilité au risque de bloquer la transition écologique.
Et pourtant, Guillaume, il y a d'autres solutions que les taxes pour accélérer cette transition.
Oui, mais le gouvernement ne va pas les utiliser non plus. Le prix du carbone a un caractère très structurant pour toute la transition énergétique. Pourquoi est-ce que les ménages isoleraient leur logement si le prix du gaz n'augmente pas? Pourquoi est-ce qu'ils achèteraient des voitures électriques ou ils se mettraient au vélo ou au covoiturage si le diesel n'est pas plus cher? Pourquoi les collectivités investiraient-elles dans des réseaux de chaleur si le chauffage individuel reste aussi bon marché? Si on veut atteindre des objectifs élevés dans tous ces domaines, sans augmenter la fiscalité carbone, la seule autre solution, c'est de subventionner plus massivement les alternatives. Le gouvernement est-il vraiment prêt à accroître beaucoup les dépenses publiques en faveur de la transition énergétique? Évidemment non. Les années qui viennent seront donc malheureusement de nouvelles années perdues pour la lutte contre le changement climatique en France.
Merci beaucoup Guillaume. Un mot sur la une d'Alternatives économiques ce mois-ci?
Peut-on encore vivre de son salaire? Donc on revient sur la question du pouvoir d'achat, mais on revient aussi sur les révoltes d'hier et d'aujourd'hui avec un cahier spécial.
On va regarder ça de près. Un grand merci Guillaume et à très bientôt.
On. I stood up and fixed my hair. Maybe I looked, oh baby, I looked, oh baby, I see another over there. Wake up and smell the cologne. Signal to gasoline. Too clean.
Avec le groupe Weaves et sa chanson Gasoline. Merci beaucoup Martine Orange et Isabelle Jarjaï de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Isabelle Jarjaï, Service public délégué au privé, à qui profite le deal, paru aux éditions Yves Michel, et votre enquête sur la privatisation des aéroports de Paris. Martine Orange est disponible sur le site de Mediapart, à condition toutefois d'être abonné. Demain, comment refonder l'OMC pour sortir de la crise du commerce international? On en parle avec Sébastien Jean, Elvire Fabry et Emmanuel Butos. Tubes. Et en attendant, vous pouvez évidemment écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.